Cette semaine, j'ai eu l'impression de regarder un film dont on avait un peu raté la fin. Vous savez, ce moment où le héros court vers l'aéroport, où la musique monte, où la caméra tremble, où le public retient son souffle, et puis la pellicule se coupe, noir, générique de fin, pas de baiser, pas d'explication, juste une espèce de silence gêné dans la salle et un vendeur de pop-corn qui regarde ses chaussures. Non, parce que la semaine passée, je vous avais promis, enfin, Trump nous avait promis un accord de paix signé ce week-end des Iraniens qui atterrissaient le mardi à Washington, un prix Nobel à Oslo et le pétrole à 60 dollars avant la fin du mois. Et puis voilà, lundi matin, lundi dernier, j'ouvre mon téléphone, pas de signature, pas d'Iraniens à Washington. Ils étaient trop busy à chercher leurs mines sous-marines et tirer sur des cargos innocents. Pas de prix Nobel, juste un communiqué assez flou, deux tweets contradictoires, un pétrole qui a recommencé à faire n'importe quoi et une Navy américaine qui se rejoue Baywatch dans le détroit d'Ormuz. La paix cette semaine, c'est un peu comme le Père Noël. Tant qu'on n'a pas ouvert le paquet, on peut encore faire semblant d'y croire. Bienvenue dans ce Swiss Bliss, je suis Thomas Bayet et nous sommes le samedi 25 avril 2026. Et cette semaine, les marchés ont fait quelque chose d'encore plus étrange que la semaine dernière. La semaine dernière, ils étaient montés sur une promesse. Cette semaine, ils sont restés en haut sur une promesse qui n'a pas été tenue. C'est un niveau supérieur, c'est presque devenu artistique.
Cette émission vous est présentée par SwissQuote.
Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit.
Alors reprenons dans l'ordre, parce que c'est toujours mieux dans l'ordre. D'abord, ça fait plus suisse, et puis comme il y a beaucoup de choses à dire, on va essayer d'être un petit peu organisé. Dimanche dernier, le 19 avril à 23h, heure de Washington, on attendait donc le communiqué américano-iranien, on attendait les avions, on attendait les drapeaux sur le tarmac, les poignées de main, les sourires crispés et les photos, et on n'a rien eu. Rien, nada, que dalle. Juste Trump qui poste sur Truth Social à 2h du mat pour dire que le deal est à 99% fait, ça va être magnifique, croyez-moi. Les 1% qui manquent, bah, ce sont exactement les mêmes que la semaine dernière, le mois passé et probablement aussi le trimestre prochain. Lundi, le pétrole ouvre à 91 $ contre 83 vendredi soir, le S&P ouvre en baisse, normal et plutôt défendable. Et puis, vers 11h du matin, Goldman Sachs publie une note, une de ses notes magiques qui résolvent tous les problèmes en trois paragraphes, le titre « Hormuz, normalization remains on track ». Traduction « Mais bordel, achetez !» Si on vous dit que tout va bien, c'est que tout va bien. Le S&P 500 reprend de la vigueur, le pétrole redescend à 87, les records se remettent à tomber. Mercredi, un pétrolier saute sur une mine dans le détroit, 5 blessés, pas de mort, incendie maîtrisé, le WTI prend 4 dollars en 20 minutes. 2 heures plus tard, un autre analyste, je vous jure que j'invente pas, publie une note expliquant que cet incident isolé ne remet pas en cause le scénario de désescalade. Un incident isolé dans le détroit d'Ormuz. Sur un pétrolier en pleine crise pétrolière et géopolitique. Alors c'est là que j'ai compris qu'on est rentré dans une espèce de nouvelle ère, hein. Une ère où les mauvaises nouvelles ne durent pas plus d'une heure, une ère où il suffit qu'un analyste cravaté en Hermès vienne écrire une note pour transformer une mine explosive en opportunité d'achat. Maintenant, on va parler d'un truc magnifique, d'une chose belle comme un coucher de soleil sur les ruines d'une politique étrangère cohérente. On va parler du Trump pattern. Le pattern, celui que vous connaissez, celui que je connais, celui que franchement à ce stade même votre boulangère connaît, si elle suit un minimum l'actualité, entre deux croissants, le marché monte, le marché descend, Trump tweet, le marché remonte, et tout le monde fait semblant que c'est de la finance. C'est pas de la finance, c'est du théâtre de boulevard avec un casting de personnages secondaires qui sont interchangeables et un seul vrai rôle, le clown en chef, 79 ans, toujours partant pour une volte-face à 22h15, hors d'Europe centrale, bien sûr, parce que oui, une volte-face sur Truth Social, c'est toujours plus drôle quand les marchés sont fermés et que les Européens sont couchés. C'est pour ça qu'on se réjouit chaque week-end de voir ce que le président va encore nous inventer. Hier, et accrochez-vous parce que c'est exactement comme la dernière fois, et cette semaine, eh bien, figurez-vous que ça a encore fonctionné. Et comme on l'a vu dans le Morning Bull Live d'hier, Trump est responsable des 10 plus gros mouvements de marché depuis qu'il est revenu à la Maison Blanche. Si vous pensiez encore que ce marché fonctionne sur des fondamentaux, eh bien vous vous fourrez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. C'est plus un bull market ou un bear market, il n'y a plus de méthode pour suivre la tendance, parce que la tendance c'est ton ami. C'est un Trump market et le meilleur des traders, c'est celui qui est le plus proche de Trump. N'est-ce pas Junior ? Si vous avez encore des doutes, si c'est le cas, il suffit de regarder ce qui s'est passé mardi dernier. Écoutez plutôt. On commence donc la journée de mardi avec la conviction exprimée par Trump la veille au soir que les négociations de paix c'est dans la poche. Et puis, on ouvre le bal avec une série de rumeurs parfaitement orchestrées. Rumeur numéro 1, Vance n'a pas décollé, il est toujours à Washington. Rumeur numéro 2, l'Iran traîne les pieds. Surprise absolue pour tout le monde, évidemment eux qui tiennent tellement à leur nucléaire. Rumeur numéro 3, Téhéran propose une condition préalable, le blocus naval doit être levé avant qu'on discute de quoi que ce soit. Ce qui est exactement la même chose si vous arrivez à une négociation salariale avec votre boss en disant « Payez-moi d'abord et on discutera ensuite ». Ça ne marche généralement pas comme ça. Rumeur numéro 4, celle qui tue, l'agence iranienne Tasnim, 10 minutes avant la cloche de Wall Street, sort un communiqué en deux lignes, l'Iran ne viendra pas à Islamabad, c'est une perte de temps. Une perte de temps dit par l'Iran qui enrichit de l'uranium depuis 25 ans. Je vous laisse méditer sur leur rapport à la productivité et à l'efficacité. Et résultat immédiat, le Brent explose à 99,95 en intraday. Le WTI monte vers les 92, Wall Street perd 0,3% dans le dernier quart d'heure. La VIX repasse les 20, les gens commencent à se regarder avec des yeux en disant « je crois que c'est reparti ». Le marché se fait taper dessus, le cessez-le-feu arrive et on se dit que ça va mal se finir et qu'au vu du comportement des Iraniens qui ne cèdent pas, ça va mal se finir. Ensuite, les marchés ferment, comme tous les soirs. La tension est palpable et à la clôture, on entend parler d'une baleine qui se serait mise short sur le baril, mais du gros short. Un pari d'une taille qui ne laisse pas imaginer que ça provient d'une analyse fondamentale des marchés et des hydrocarbures, mais plutôt d'un gars qui a la conviction d'avoir raison et qui fait partie du grand sachoir, ce cercle d'initiés dont vous et moi ne faisons pas partie. 22h15, heure de Fuyi, juste à côté de Martigny, Trump poste sur Truth Social. La synthèse, parce que je vais vous épargner la prose trumpienne dans son intégralité, l'Iran est sérieusement fracturé, mais le Pakistan a demandé une pause, on suspend donc l'attaque et on prolonge le cessez-le-feu. Indéfiniment, pas de date, pas d'ultimatum, juste on prolonge. Le blocus, lui, il continue. En moins de 30 minutes, le WTI se pète la gueule comme un seul homme, le Brent suit le mouvement bien sûr et les futurs S&P explosent en effaçant la baisse de la journée comme si on venait de trouver de l'or sous la Maison Blanche. C'est donc un nouveau taco trade exécuté à la perfection. Si vous étiez long à la clôture, bravo, vous avez gagné, vous avez bien compris le pattern de Trump, la méthode d'investissement made in MAGA, ou alors vous étiez super bien informé. Sinon, bonne chance la prochaine fois. Oui, parce qu'il y aura forcément une prochaine fois. C'est même plus de la statistique, c'est de la certitude. On va donc revenir brièvement sur la technique que l'on peut appliquer après 18 mois de Trump 2.0. Prenez vos carnets de notes, on va aborder un sujet fascinant, presque mythique dans son genre, la prévisibilité totale d'un homme qui se croit imprévisible. Oui, parce que depuis quelques mois, et les hedge funds l'ont compris avant tout le monde, Donald Trump a un cycle, un pattern, une mécanique aussi régulière qu'une montre suisse, mais en beaucoup moins élégant. Et le marché, il commence à l'avoir intégré, comme on apprend à gérer les crises de colère d'un gamin de 4 ans dans un magasin de jouets. On sait que ça va arriver, on sait comment ça finit, et pourtant, à chaque fois, ça fout le bordel. Alors aujourd'hui, on décortique le cycle, les 5 temps, les variantes et la limite, parce qu'il y a une limite. Étape numéro 1, on commence par la menace. Trump, tout d'abord, balance une annonce fracassante, de préférence un dimanche soir ou le week-end sur Truth Social, quand les marchés sont fermés, que les traders sont en short dans le jardin en train de faire un barbecue. Tarif à 145%, sanctions, le pire deal de l'histoire de l'humanité depuis la création du feu, ou un bon « je vais les renvoyer à l'âge de pierre ». Vous connaissez le concept. L'objectif numéro 1, c'est de faire beaucoup, beaucoup de bruit. Parce que avoir l'attention des médias pour Trump, c'est un petit peu sa cam. Sans bruit, sans attention, il meurt. On arrive donc à l'étape numéro 2, le choc. Donc le lundi matin, les marchés ouvrent, ils s'effondrent, les algorithmes font leur travail, ils ne lisent pas Trump, ils lisent les mots-clés, ils lisent tarifs, plus 145%, plus représailles, donc ça ne donne pas forcément un signal d'achat. Les chaînes d'infos financières convoquent leurs experts, ceux qui étaient encore en vacances à Ibiza le week-end dernier, et là, c'est le grand moment, c'est la fin du monde tel qu'on connaît, chacun y va de son scénario catastrophe, c'est excellent pour l'audimat, un peu moins excellent pour votre portefeuille si vous avez subi le panic selling à l'ouverture. Et puis, on a l'étape numéro 3 qu'on appellera l'escalade verbale. Trump voit que ça fait du bruit, alors il en remet une couche. C'est mécanique, c'est pavlovien. Enfin, c'est Trump en gros, hein. Il menace davantage, il parle de victoire totale, il compare les autres dirigeants du G7 à des idiots, il méprise son adversaire. À ce stade, les marchés sont dans le rouge, les analystes font des calculs sur l'impact économique et les journalistes politiques font semblant de comprendre ce que sont des tarifs douaniers. Et puis on arrive à l'étape numéro 4, la capitulation. Et là, c'est là que le moment devient magnifique, c'est le moment que les marchés ont donc baptisé le taco, Trump always chickens out. Une exemption discrète par-ci, un délai de 90 jours par-là, un conseiller qui sort de nulle part pour dire que les discussions avancent dans la bonne direction et que les deux parties ont bien avancé sur les sujets clés, la menace se dégonfle comme un soufflet mal cuit à la sortie du four, comme les promesses électorales le lendemain du vote. Patatras, arrive l'étape numéro 5, le rebond. Les marchés remontent, parfois violemment, le S&P récupère la moitié de ce qu'il avait perdu, parfois tout, parfois plus, et les mêmes experts en cravate, oui les mêmes qui étaient là au début, reviennent à l'antenne pour expliquer que finalement, tout ça c'était que de la négociation tactique très sophistiquée et que Trump est, je cite, « un négociateur hors du commun qui joue à un niveau que peu de gens comprennent ». Et ça c'est le truc le plus juste qu'on ait entendu depuis un moment, plus personne ne comprend rien. En gros c'est ça le pattern. Maintenant, on a le cycle de base, mais un bon cycle, ça a des sous-catégories. Et elles ont toutes été identifiées, documentées, exploitées. Variante numéro 1, on a le cycle tarifaire court, 48 à 72 heures entre la menace et la capitulation partielle. C'est le grand classique. Très rentable si vous avez les nerfs et les options call et put qui vont avec. Des fonds ont fait des semaines extraordinaires rien qu'avec ça, littéralement, shorter l'annonce, racheter le pédalage en marche arrière. Variante numéro 2, le cycle géopolitique long. Iran, Chine, OTAN, là c'est pas 72 heures, c'est plusieurs semaines. La menace reste dans l'air ambiant, comme une espèce de cave, d'odeur de cave humide, vous savez, quand on rentre dans une cave, vieille cave, on s'y habitue, on finit par ne plus le sentir, et puis Trump change de sujet, et tout le monde oublie qu'il y avait une menace. Pensez un petit peu à ce qui se passe sur la Chine depuis pratiquement 2 ans. Variante numéro 3, le double bluff. Celle-là, elle est particulièrement perverse. Capitulation annoncée, puis re-escalade immédiate pour montrer qu'il n'a pas vraiment capitulé, histoire de sauver la face. On l'a vu en direct sur les tarifs chinois, 145%, puis 90 jours, puis peut-être, puis on verra, puis les discussions avancent bien. Un yo-yo géopolitique avec l'économie mondiale suspendue au bout du fil. Il y a aussi la variante numéro 4, le pump and dump via Truth Social, annonce positive balancée sur les réseaux au moment précis où une position a besoin d'un petit coup de pouce. Coïncidence, la SEC s'est posé la question plusieurs fois, sans réponse définitive. Parce que la SEC a d'autres préoccupations en ce moment. Comme par exemple ne pas se faire virer par Trump. Mais qu'on se le dise, le marché n'a jamais été aussi manipulé et aussi dominé par une seule personne. Et il y en a qui se sont fait des c***nors. C'est illégal, ça ne se fait pas, mais tant que Trump est au pouvoir, eh bien il fait ce qu'il veut. Alors concrètement, qu'est-ce que tout ça a donné? Les traders et hedge funds qui ont compris le pattern assez tôt ont fait quelque chose de remarquable. Ils ont transformé la politique américaine en stratégie de trading, shorté l'annonce, acheté la capitulation et puis recommencé. Et certains fonds ont même affiché des performances absolument remarquables au premier trimestre 2026 en faisant rien d'autre que lire les posts d'un septuagénaire à 3h du matin. C'est tout simplement magnifique. Mais attendez, parce que la vraie réflexion, elle est là. Ce qui s'est passé, c'est quelque chose d'historiquement inédit. Les marchés ne réagissent plus à la politique, c'est la politique qui est devenue un instrument de marché. Trump regarde le Nasdaq comme d'autres regardent leur tension artérielle, il monte, il tweet, c'est grâce à lui, il baisse, c'est la faute à Biden, à la Fed, à la Chine, aux médias, au vent, à la météo. La politique économique de la première puissance mondiale est pilotée en temps réel par la réaction des marchés à des posts sur un réseau social que 80% de la population ne connaissait pas il y a 5 ans et qui a été créé par Trump lui-même. Et je dis ça sans jugement, enfin... Si, je juge quand même un tout petit peu. Hein. Mais bon, attention, maintenant on arrive à la partie importante parce que le problème avec les cycles, les patterns, les stratégies qui fonctionnent toujours, c'est qu'ils finissent toujours par se briser. Et là, deux scénarios. Le scénario A, qu'on appelle Crying Wolf, Trump capitalise une fois de trop, les marchés n'y croient plus, la crédibilité s'effondre et les marchés arrêtent de rebondir après les annonces. On appelle ça, en version financière, la disparition du put présidentiel implicite. Le moment où le marché dit « Ok, cette fois, on joue plus ». On n'y croit plus. Et on l'a vu cette semaine, hein, l'amplitude des réactions de marché commence à ralentir. Liberation Day, c'était méga violent, l'Iran, ça commence à méga gonfler tout le monde. Le scénario B, c'est la menace qui est réelle. Un jour, parce que ce jour arrivera un jour, la menace ne sera pas du cinéma. Pas de capitulation, pas de 90 jours, pas de conseiller qui sort de sa boîte pour désamorcer. Et là, ceux qui ont joué le cycle une fois de trop se retrouvent du mauvais côté d'une falaise qu'ils croyaient être un mur en carton. Je dis pas que ce jour c'est demain, je dis juste qu'un jour il viendra. Et que la différence entre le mur en carton et la falaise, c'est qu'on ne comprendra, qu'on ne le verra juste après. Le marché a développé une relation malsaine avec Trump, comme un codépendant affectif qui sait que son partenaire ment, qui sait que ça va recommencer, qui sait bien sûr que c'est destructeur, mais qui continue quand même. Parce que les alternatives sont encore plus terrifiantes. C'est un peu la description d'une personne toxique. Keynes disait « Le marché peut rester irrationnel plus longtemps que vous pouvez rester solvable ». Mais Keynes n'avait clairement pas prévu Truth Social. Bref, ce qu'il faut retenir du taco de cette semaine, c'est que l'Iran n'a pas signé, ne veut pas signer et ne veut pas négocier tant que Trump n'a pas plié. Ça pourrait mettre Trump en colère, mais pour l'instant, que dalle, les Américains n'ont pas frappé. Les négociations flottent dans un état second, une espèce de suspension indéfinie qui n'a même plus de date butoir à surveiller. Et le marché, il est épuisé, il est fatigué, il est désabusé et il recommence quand même à monter parce que le taco a fonctionné. Encore. La vraie question ce matin, c'est pas est-ce que l'Iran va négocier, c'est combien de temps encore le marché va croire au prochain tweet. Parce qu'à chaque rebond, la crédibilité s'érode un peu plus, et le jour où le taco ne suffira plus, ce jour-là, personne ne sera prêt. En attendant, on surveille le Brent, on surveille Tasnim, et on continue à se demander comment une économie mondiale de 100 000 milliards de dollars peut dépendre des insomnies d'un seul homme de 79 ans sur un réseau social qu'il a lui-même créé. Passons maintenant au sujet de la fête de demain. La semaine dernière, on a eu Kevin Warsh qui est passé devant la commission bancaire du Sénat pour être confirmé comme successeur de Powell. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de ma chronique la semaine passée. Je vous disais que tout reposait sur Tom Tillis, le sénateur républicain de Caroline du Nord, qui avait annoncé son opposition tant que l'enquête de Powell n'était pas résolue. Tillis a posé sa condition de manière très explicite pendant l'audition. Il veut que l'enquête du DOJ sur Jerome Powell soit abandonnée. Il a dit à Warsh en face, débarrassez-vous de cette investigation et je pourrai soutenir votre confirmation. Voilà. En gros, il y a toute une histoire qui tourne autour de ça. J'ai écrit tout un texte là-dessus. J'ai rédigé toute une chronique là-dessus. Le problème, c'est que ce matin, eh bien, ils ont fait sauter l'enquête du DOJ. Donc, c'est plié. Kevin Warsh va être adoubé par le Sénat dans les prochains jours qui viennent. Trump va évidemment se casser comme prévu et le nouveau patron de la Fed sera probablement, évidemment, Kevin Warsh. Ce qui est magnifique dans tout ça, c'est que finalement, eh bien, encore une fois, le hasard a fait bien les choses puisque tout d'un coup, au milieu de nulle part, on a décidé de faire sauter cette enquête comme contre Jerome Powell. C'est absolument magnifique. Donc voilà, c'est réglé, on a bossé dessus, on y a réfléchi toute la semaine, on s'est pris la tête avec ça pendant la semaine et magie! Magie de la politique, de la géopolitique, de la politique made in Trump, tout a été réglé durant la fin de journée de ce vendredi. Pour le reste, la saison des résultats a continué et elle a livré son lot de surprises et son lot de Musk. Mardi soir, on a eu Tesla, les chiffres étaient mauvais mais meilleurs que les attentes, les livraisons sont en baisse, les marges se font grignoter, la guidance est floue, le titre a perdu 4% après les chiffres, pas de quoi se rouler par terre pour un titre comme Tesla, c'est rattrapable sur deux tweets et une rumeur. Et puis Musk a prononcé le mot magique, j'ai envie de dire, le mot convergence. Selon lui, Tesla, XAI, Neuralink, SpaceX, Optimus, The Boring Company, ce sont plus des entreprises séparées, ce sont les organes d'un seul organisme qu'il est en train de construire. Le produit final est une intelligence générale embarquée dans un corps robotique qui peut conduire une voiture électrique, cuisiner un steak, piloter une fusée et vivre sur Mars en 2031. Je sais pas si c'est du génie, je sais pas si c'est de la folie, ou alors que c'est peut-être les deux en même temps. Après 30 ans dans ce métier, je sais pas si je peux trancher. Par contre, ce que je sais, c'est que quand Musk dit convergence, les analystes arrêtent de poser des questions sur les marges et commencent à se demander la date du lancement. Et les marges, elles, ne se réparent pas toutes seules. Et puis alors, cette semaine, il y avait les semi-conducteurs. Oui, alors les semi-conducteurs, ça a quand même été une semaine de folie. Le SOX a enquillé tellement de journées de hausse qu'on n'arrive plus à compter. Intel a fait un carton sur les trimestriels, on en a parlé hier. Et hier soir, le titre terminait en hausse de 23% sur la séance. Sur un an, c'est 363% de performance. C'est du délire. Tout le secteur est en folie. Et il y a un titre qu'on avait presque oublié, c'est Nvidia. 6 mois à regarder le titre patiner mollement sans battre de record. Et puis Intel est arrivé. Intel, le dinosaure qu'on enterrait en grande pompe depuis 3 ans dans tous les podcasts de la planète, Intel aura été le retournement de situation le plus inattendu depuis le retour des Crocs. Et Intel a donc emmené Nvidia avec elle. Hier soir, le roi de l'IA a franchi la barrière des 5000 milliards de capitalisation. 5000 milliards du jamais vu. Il faut dire que Nvidia fait 250% de performance sur sa participation en Intel, acquise l'automne dernier, moins bien que ce qu'a fait Trump en achetant en avril, mais quand même, on peut pas tous revendiquer des pertes de 250% dans nos portefeuilles. Jensen Huang a donc transformé une participation industrielle en brouette de cash en moins d'un an, pas mal pour quelqu'un qu'on décrivait surtout comme le type avec le blouson en cuir qui parle de GPU, et le SOX enchaîne sa plus longue série de hausses depuis 1994, en gros, depuis que certains d'entre vous n'étaient même pas nés. Cette semaine, un analyste résumait assez bien la chose et l'engouement qui emmène les semi-conducteurs au firmament. Le problème, c'est la pénurie de puces. Il n'y a pas assez d'ordinateurs, il n'y a pas assez de puces. Tout le monde se bat pour avoir plus de capacité de calcul. On a décidé collectivement de faire tourner des modèles d'IA pour générer des images de chats et gérer nos boîtes mail. Et maintenant, on n'a plus assez de silicium pour tout le monde. C'est la tragédie grecque du 21e siècle. Prométhée avait volé le feu. Nous, on a volé l'attention des data centers pour faire du chatbot. Et maintenant, les hyperscalers supplient Taïwan de construire des usines plus vite. AMD en a profité aussi, elle est au-dessus des 500 milliards de capitalisation pour la première fois de son histoire, Texas Instruments a battu les attentes, Broadcom franchit les 2000 milliards de capitalisation boursière, le secteur a donc été en délire total toute la semaine, et peu importe le pétrole, les postes de Trump ou les horaires d'ouverture du détroit d'Hormuz, mais méfiance quand même au principe de l'attraction terrestre. Et maintenant, asseyez-vous parce que je vais vous raconter l'histoire que personne n'a vraiment abordée cette semaine. Celle qui, de mon point de vue, est peut-être l'une des plus importantes de ces 5 derniers jours et peut-être de ces 5 prochains mois. Vendredi dernier, à 1h30 du matin, Tokyo a publié le CPI du mois de mars, l'inflation core au Japon. Alors on se fout pas mal du chiffre, mais il est au plus haut depuis quasiment 40 ans. Cherchez sur CNBC, cherchez sur Bloomberg, cherchez sur Yahoo Finance, 3 lignes sur le sujet, au mieux 4, vous trouverez pas plus. Pas plus parce qu'il y a Tesla, Trump, Hormuz, Musk, Warsh, Intel et tout le reste du cirque. Pourtant, la Banque du Japon, la BOJ, se réunit la semaine prochaine. Et pour la première fois depuis que j'exerce ce métier, elle pourrait annoncer une hausse des taux vraiment sérieuse. Et quand la BOJ bouge, l'univers entier peut trembler. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'août 2024, le fameux Yen Carry Trade Unwind, le Nikkei qui perd 12% en une séance, le VIX à 65, les marchés mondiaux qui paniquent pendant 48 heures. Tout ça, c'était sur une hausse de 15 points de base. 15 points de base. Imaginez une seconde ce qu'une vraie hausse pourrait provoquer aujourd'hui, avec le yen qui flirte à nouveau avec les 160 comptes dollars, et un carry trade qui s'est à nouveau accumulé silencieusement depuis 6 mois sans que personne ne compte les coups. On n'en parle pas assez, et ça m'inquiète un petit peu. Et pendant ce temps, attention, roulement de tambour, la Fed se réunit aussi la semaine prochaine. Mardi, mercredi, 28-29 avril, FOMC meeting, conférence de presse de Powell, mercredi à 14h30, heure de Washington. Personne n'en parle. Mais je veux vraiment dire, personne. J'ai fait le tour des previews de CNBC, les notes de Goldman Sachs, les podcasts de Bloomberg, les cartes mentales de Zero Hedge. C'est Tesla, Hormuz, Musk, Intel, Nvidia qui monopolisent tout l'espace. Or, cette réunion, c'est peut-être une des grosses réunions importantes depuis 2022. Pourquoi ? Parce que Powell est un canard boiteux, il sait qu'il part, il sait que son successeur Warsh a passé toute la semaine à dire au Sénat qu'il fallait baisser les taux et être humble. Et Powell, lui, il a une dernière occasion de rappeler à tout le monde que la Fed est indépendante. Donc on a 2 options. Soit il fait le pompier, il baisse les taux pour faire plaisir à Trump, mais il va à l'encontre de ce qu'il pense et de ce qu'il doit faire. Soit il fait le pompier pyromane, il fait ce qu'il doit faire avec un baril qui ne baisse plus, il ne bouge pas. Et pire, il prévient que tant qu'il n'a pas quitté son siège, la Fed ne fera rien de ce que demande la Maison Blanche, et là ça peut être chaud, bon, même si ça peut durer que 15 jours. C'est pas tant les Feds qui vont compter, c'est plutôt les mots, bien sûr, vous l'aurez compris. Et ce qui me fascine quand même, c'est le silence qui plane autour du meeting de la Fed de la semaine prochaine, et encore plus autour de l'inflation japonaise. Entre une BOJ qui pourrait monter en urgence, une Fed qui pourrait refuser de baisser et des marchés à des plus hauts historiques sur des promesses non tenues, on a exactement le cocktail d'une semaine qui peut tout changer. Ou pas. Mais bon, de toute façon, c'est pas grave, personne ne regarde, tout le monde est scotché sur Hormuz, le pétrole, les Iraniens et les postes de Trump. C'est ça, la vraie histoire de la semaine. C'est pas Trump, c'est pas Musk, c'est pas le Sox, c'est pas Intel, et c'est pas l'accord qui n'a pas été signé. C'est peut-être le yen, les taux japonais, le meeting de la Fed et les mots de Powell, et aussi le fait que personne ne regarde. Si on regarde les performances de la semaine, vous allez voir qu'il y en a qui ont bien profité, comme les États-Unis, avec le SOX qui prend 10%, le pétrole dont on n'ose même plus regarder que ça coûte très très cher et puis que ça coûte encore plus cher à la pompe, qui prend 12,58% sur la semaine, le Bitcoin qui monte gentiment, le Nikkei qui termine quasiment ou qui est au plus haut de tous les temps, le Nasdaq qui reprend encore 1,5%, le S&P qui est en hausse, et puis vous avez le reste qui est globalement dans le rouge. Vous voyez que les transports sont pris 6,82 dans la tête, tout en bas de la liste, ça c'est à cause du pétrole et des tarifs sur les avions. Le SMI qui termine en baisse de quasiment 2% malgré les bons chiffres de Roche, malgré les bons chiffres de Nestlé. Le DAX qui perd 2,3%, le CAC 40 qui perd 3,17% malgré les bons chiffres de L'Oréal. Vous voyez comme quoi la semaine était un petit peu assez séparée dans la perception des choses, puisqu'on avait l'impression que tout allait bien, mais en Europe c'était un peu moins facile que c'était le cas aux États-Unis. Mais ce qui fait surtout monter les États-Unis, c'est les semi-conducteurs. En résumé, si on voulait faire simple sur la semaine, t'as pas de semi-conducteurs, t'es personne. Pour ce qui est de la Suisse, sur les 5 jours, on a ABB qui a publié des bons chiffres, qui prend plus 3%, Swisscom qui a un veau comme d'habitude, on s'en inquiète pas, Nestlé qui termine quand même en hausse de pratiquement 3% après ces chiffres qui l'ont fait booster durant la séance, Roche qui termine également en hausse, et tout le reste est dans le rouge. Vous voyez que c'était quand même difficile, difficile pour Lonza, difficile pour Sika, Lonza qui perd 12% quasiment sur la semaine, mais le reste, eh bien, on a pris la pression et le stress des marchés financiers, enfin de l'inquiétude sur le Moyen-Orient en pleine face, alors que pendant ce temps, si on avait simplement acheté de l'Intel, on aurait passé une très 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 belle semaine. Sur le SMI, le graphique, il monte pas grand chose, il voit qu'on est dans une phase de, on va dire, de construction, on oscille entre pas grand chose, hein. Vous voyez que les bas sont à 13 000, on tient pour l'instant les 13 000 et on a un pic qui est à 13 400, donc on est dans une espèce de range qui est en train de se construire. Pour l'instant, la moyenne mobile des 50 jours nous guide et malgré les bons résultats qui ont été publiés cette semaine, on n'a pas réussi vraiment à sortir de la tendance d'un côté ou de l'autre, mais on est toujours dans cet immense canal haussier qui passe par ici et qui passe par là, qui pour l'instant nous permet d'aller ni trop haut ni trop bas, bien au contraire. Le S&P 500 au plus haut de tous les temps à la fin de la semaine, ça se passe de commentaires, hein. La cassure est nette, les résistances, bah il y a plus de résistance, hein. La prochaine résistance c'est juste l'ancienne clôture plus haute de tous les temps de la veille. Donc pour l'instant, on est toujours en phase d'accélération et la semaine prochaine, il y aura les publications de toutes les grosses boîtes américaines, une grande partie des grosses boîtes américaines qui peuvent nous emmener beaucoup plus haut ou nous faire revenir à la réalité en direction d'en dessous les 7000. À suivre attentivement la semaine prochaine, mais pour l'instant, tout va bien au niveau des indices américains. Je vous passe l'indice Nasdaq, parce que aujourd'hui on regarde plus le Nasdaq, on regarde le SOX. Regardez simplement la performance, c'est spectaculaire, c'est impressionnant, c'est juste hallucinant. Si vous reprenez un petit peu de recul, hein, je reviens juste en avril 2025, on était à 3400, on est à 10513 sur l'indice des semi-conducteurs, fois 3 en une année sur le secteur. C'est du délire, c'est juste impressionnant. Alors comme je le disais tout à l'heure, il y a une justification parce qu'on a besoin de semi-conducteurs pour tout le temps et en grosse quantité et on n'a visiblement pas les capacités pour les avoir. Mais ça rappelle aussi beaucoup les graphiques de fin de cycle de bull market où on a une explosion complètement irréelle. Vous avez quand même la 18 séances de hausse consécutives sur le SOX, c'est juste hallucinant. Donc c'est impressionnant. On parle même pas de tendance ici, on parle juste de délirium qui peut s'arrêter demain ou dans 3 semaines. Le DAX, retour à la case départ. Dans le DAX, fait rien du tout. L'Europe, ils aussi, c'est plutôt difficile. L'Europe est beaucoup plus stressée par ce qui se passe au Moyen-Orient que les États-Unis. Il faut dire que les bonnes nouvelles sortent quand l'Europe est fermée, donc ils en profitent jamais. Puis entre deux, il y a de nouveau une mauvaise nouvelle. Donc techniquement, le DAX ne fait pas grand-chose. On termine la semaine, on baisse. Mais on oscille sans panique et sans grand intérêt non plus. C'est la même chose sur la plupart des indices européens. C'est la même chose sur le CAC 40, vous voyez qu'en haut, en bas, malgré quand même 2-3 bons chiffres à l'intérieur des indices. L'or revient gentiment, il est à 4700, là aussi, il n'y a rien de spécial à signaler. On reste dans une zone de consolidation, attention qu'on n'accélère pas en direction des 4400, parce qu'on pourrait vite vouloir aller rechercher cette zone basse ici autour des 4380. Et puis alors, à tout seigneur, tout honneur, le WTI, le pétrole qui a vécu une très belle semaine. Hein, donc, fin de semaine, le plan de paix est en route, on est à 82. Et puis, fin de semaine, on n'a toujours rien, on est à 96. Et le détroit d'Ormuz est toujours bloqué. Donc voilà, je rappelle que plusieurs, on en a parlé hier dans le Morning Bull, il y a plusieurs patrons de d'entreprises pétrolières qui pensent que le détroit ne rouvrira pas avant le mois d'août, complètement, qu'il y a des mines qui se battent à droite à gauche, on ne sait pas où elles sont, donc ça risque d'être quand même très compliqué pour le pétrole, qui, je le rappelle, coûte quand même beaucoup d'argent à tout le monde quand il traîne autour des 100 dollars. On attaque le sujet des vedettes de la semaine, puisque pendant que le monde part en vrille entre tensions géopolitiques et marchés sous caféine, Rush continue de faire du rush, tranquille, propre, presque ennuyeux, donc rassurant. Le groupe a annoncé une croissance de 6%, enfin en vrai, parce qu'en franc suisse, ça recule de 5%. Merci le franc suisse qui joue son rôle de valeur refuge et qui te flingue les conversions comme un sniper discret, classique. Le business va bien, mais la devise donne l'impression que t'as raté ton trimestre. Dans le détail, rien de révolutionnaire, mais tout fonctionne. La pharma tourne à plus 7, les diagnostics suivent à plus 3, et les machines à cash comme le Xolair, l'Ocrevus font le boulot sans faire de bruit, pas de buzz, pas d'effet IA, juste des gens malades qui continuent à prendre leurs médicaments. En face, les analystes n'ont même pas eu le plaisir de se tromper, c'est pile dans les attentes, et le patron, lui, confirme tranquillement les objectifs annuels, croissance autour de 5%, bénéfices en hausse de 7 à 9%, dividendes qui montent, bref, le message est clair, tout va bien. Même la géopolitique n'arrive pas à dérégler la machine. Le Moyen-Orient, on n'a aucun site là-bas, donc aucun impact direct. Roche observe ça de loin, comme un Suisse regarderait une bagarre, concerné, mais pas vraiment impliqué. Résultat, le marché salue poliment avec un petit 3%. Pas de feu d'artifice, mais pas de panique non plus. En résumé, c'est pas une licorne sous stéroïde, c'est pas Intel qui fait plus 40% chaque semaine, c'est une horloge suisse qui fait tic tac, tic, tac, et dans le chaos actuel, une horloge qui donne encore l'heure juste, ça devient presque un actif refuge émotionnel. Le graphique du Mont Roche passe de commentaires. Je vous parlais de la semaine dernière, on parlait de cette consolidation latérale, on est toujours plus ou moins dedans, on a essayé de sortir, mais c'est difficile. Vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de dynamique. C'est ce que je disais tout à l'heure, il faudrait peut-être qu'ils se lancent dans l'intelligence artificielle, peut-être ça leur permettrait d'accélérer. On a eu des bons chiffres. On termine la semaine avec des prises de bénéfices, mais enfin, ça va bien, c'est pas trop l'extase, mais ça va bien. Techniquement, on a l'impression qu'elle veut pas y aller, comme s'il y avait une espèce de couvercle au-dessus de la casserole qui l'empêchait de monter. Pendant que certains découvrent la volatilité que les semi-conducteurs, Nestlé vient de rappeler qu'un géant de l'agroalimentaire peut aussi faire parler de lui et faire du bien au petit cœur du SMI. Plus 6% en une séance, la séance de jeudi dernier. Pour Nestlé, c'est presque un accident industriel dans le bon sens. On parle d'un nouveau mouvement qui est arrivé une seule fois en 25 ans. En gros, c'est aussi rare qu'un trader qui reconnaît qu'il s'est trompé et qu'il a perdu du fric. Alors qu'est-ce qui se passe? Pas de révolution, pas d'IA qui fait du chocolat toute seule, juste des chiffres qui rassurent enfin. Après 2 ans à regarder le titre glisser depuis ses sommets 2022, le marché commence à avoir un début de réveil. Les volumes repartent, pas comme une Tesla en 2020, mais suffisamment pour que les analystes sortent des mots comme impressionnant, ce qui dans leur langage équivaut à un cri de joie dans une bibliothèque silencieuse. La croissance interne accélère, les objectifs sont maintenus malgré un environnement bien pourri. Inflation, devise géopolitique et surtout le management donne l'impression de savoir où il va et ça suffit pour déclencher un rallye parce que ça faisait un moment que les préoccupations du management ne donnaient plus cette impression. Attention quand même, tout le monde reste prudent en mode c'est mieux mais on va pas encore ouvrir le champagne. Traduction, on sort la tête de l'eau mais on nage pas encore le crawl en compétition. Résultat, le marché se dit ok, peut-être que le pire est derrière nous et le marché a donc acheté. En résumé, Nestlé, c'est pas redevenu sexy, mais c'est redevenu crédible, et en bourse, parfois, c'est largement suffisant pour prendre 6% sur la séance. Alors, le graphique, il veut plus rien dire, hein. Vous voyez qu'on termine bien la semaine, c'est une belle semaine pour Nestlé, mais on a laissé des gaps partout, et ça, c'est jamais très très bon signe. Il y a un gap à boucher ici, un immense gap à boucher ici. Donc, est-ce que ça va suffire pour enclencher quelque chose? J'ai pas envie de dire qu'il faudrait revenir combler les gaps à 75 pour pouvoir repartir, mais ce serait plus sain. Enfin, néanmoins, pour l'instant, Nestlé est ouverte à aller chercher plus haut, et comme je vous le disais, La photo globale et la perception de Nestlé a un tout petit peu changé depuis la publication des résultats. ABB, c'est la boîte qui vend la prise électrique dans laquelle vous branchez l'intelligence artificielle, plus 18% de revenus, commande record à plus 32%, dans un trimestre où la moitié des PDG de la planète avaient les genoux qui tremblaient. Le raisonnement est imparable, l'IA a besoin de data centers, les data centers ont besoin de courant, le courant a besoin d'être géré sans que tout parte en fumée, et ABB, c'est exactement ça, c'est le marchand d'armes de l'électricité, moralement discutable, financièrement imparable. Le directeur général a déclaré qu'il relevait ses prévisions tout en reconnaissant les risques géopolitiques. Traduction, on cartonne mais on garde le parachute attaché juste au cas où. Et plus le monde part en vrille, plus les gens commandent des équipements électriques en Suisse, visiblement. On appelle ça être dans le bon secteur ou alors de la stratégie. C'est selon où on se place. Le graphique, voilà, là aussi on a laissé des gaps partout, mais vous voyez, ça continue de monter encore. Hein. Donc ABB est à 77,80, on est au plus haut des plus hauts des plus hauts. Tout va bien chez ABB. Donc on va pas se plaindre et on continue à regarder monter la chose puisqu'ils font tout juste et ils sont au bon endroit en ce moment. Vous voyez qu'ils profitent quand même bien de la hype IA quelque part. En tout cas, c'est ce que le chart nous montre. Pendant que certains rêvent encore de croissance post-Covid, Kühne Nagel vient gentiment rappeler que la logistique c'est cyclique et que le vent a clairement tourné. Le début d'année aura été compliqué, revenus en baisse, bénéfices qui reculent de 18%, rien de dramatique, mais clairement, on n'est plus dans l'euphorie des années où tout le monde s'arrachait des conteneurs à prix d'or. Le coupable principal, le franc suisse, évidemment, trop fort, trop beau et trop pénalisant pour les chiffres. Sans lui, la baisse est déjà moins violente, mais bon. Pour l'instant, ça reste une baisse. Côté opérationnel, ça tousse un peu. L'EBIT est en recul, les marges se contractent, on sent que la machine tourne moins vite. Et forcément, quand ça ralentit dans le transport, ça veut souvent dire que derrière, l'économie tousse aussi. Vous ajoutez à ça le bazar géopolitique, le Moyen-Orient qui s'enflamme, les volumes maritimes qui chutent du jour au lendemain. Donc on bricole, on contourne, on s'adapte. C'est un grand classique du métier, mais tout n'est pas noir. Tout n'est pas noir parce que les coûts sont sous contrôle, les économies commencent à payer et certaines activités comme le fret aérien ou le fret terrestre tiennent mieux la baraque. Et surtout, ça fait mieux que prévu. Oui, parce que même si ces chiffres baissent, ils ont fait mieux que les attentes. C'était moins pire. Comme quoi, quand tout le monde s'attend justement au pire, il suffit d'être moins pire pour briller. Les objectifs sont confirmés, légèrement ajustés à la hausse sur la rentabilité. Traduction, on serre les dents mais on garde le cap. Le marché, lui, il a hésité, puis il a vendu. Kühne Nagel, c'est plus la fusée logistique post-Covid, c'est devenu un baromètre de ralentissement mondial. Et pour l'instant, l'aiguille ne pointe pas franchement vers l'optimisme, il faut le dire. Ah, le graphique se passe de commentaires, vous voyez clairement, on avait un range, on a tenté de casser le range sur les chiffres, et puis paf, on termine en dessous, donc on reste dans le range. Donc on a toujours un range de 165 à 191 sur Kühne Nagel. Pour espérer quelque chose de mieux, il faut qu'on termine vraiment la semaine en dessus des 192 francs suisses. Parlons brièvement de l'UBS. Depuis la chute du Crédit Suisse, la Suisse a décidé d'arrêter de jouer avec des allumettes dans une station-service. Et donc, UBS se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle règle simple. Tu es énorme, donc tu te blindes. Le Conseil fédéral exige environ 20 milliards de fonds propres en plus, du vrai capital, hein, pas du maquillage comptable, et surtout obligation de couvrir 100% des filiales étrangères. En gros, plus de filets de sécurité magiques. Objectif, rendre UBS incassable, quitte à la rendre un peu moins sexy en bourse. Le problème, c'est que plus de capital, ça veut dire moins de rentabilité, moins de dividendes, et les actionnaires qui font la gueule. L'UBS n'est pas ravi, évidemment, ça fait un moment que Hermetti se plaint. Ça parle déjà de perte de compétitivité, de pression réglementaire, et même de réfléchir où est-ce qu'ils pourraient poser leur valise. On sait qu'il y a déjà des enquêtes qui sont ouvertes du côté de Manhattan. Mais du côté Conseil fédéral, le message est clair. On a déjà payé une fois, on ne repayera pas. Ouais, bon, en fait, c'est pas exact. Ils ont déjà payé plusieurs fois, mais ils ont un peu oublié. Ce qu'il faut attendre maintenant, c'est qu'il y aura de la pression sur le titre UBS, des débats politiques qui risquent de durer encore, parce que tout le monde n'est pas d'accord avec Keller sous terre, et une banque plus solide, mais qui sera clairement moins explosive en bourse. En résumé, l'UBS devient un tank. Le problème, c'est qu'un tank, ça avance quand même moins vite qu'une Ferrari. On passe maintenant rapidement au en vrac de la semaine. Je vais quand même vous laisser partir en week-end. Holcim avec un chiffre d'affaires à 3,52 milliards, en baisse nominale de 4,8%, mais progression organique de 4%, ce qui veut dire, si on enlève tout ce qui fait baisser le chiffre, ça monte. L'EBIT récurrent, lui, passe de 485 à 431 millions. C'est pas catastrophique, c'est pas glorieux non plus. C'est du béton, au sens propre, comme au sens figuré. Inficon et BB Biotech ont publié leurs chiffres au premier trimestre. ils existent, c'est déjà quelque chose. Siegfried rachète 3 sites de production aux États-Unis et en Australie, il relève ses objectifs 2026. Quand une boîte pharmaceutique achète des usines et revoit ses ambitions à la hausse le même jour, en général, c'est qu'elle sait quelque chose que vous ne savez pas. Pitch Property réduit sa perte nette de 200 millions à 41 millions d'euros, sauf que le cash flow opérationnel se dégrade quand même, donc on perd moins, mais on génère moins aussi. C'est le régime qui fait maigrir, mais qui fatigue. Techniquement, un succès pratiquement discutable. Temenos affiche une hausse de revenus de 13% à taux de change constant, 253 millions de dollars, dans un secteur où tout le monde se plaint, 13% de croissance, c'est presque indécent. Et Phoenix Mécano voit ses ventes progresser de 1,6% à 198 millions d'euros, discret, régulier, comme une PME suisse qui ne fait pas de bruit et qui sera encore là dans 40 ans quand les licornes auront disparu. Montana Aerospace se sépare de son directeur général Kay Hard, avec effet immédiat, dans un commun accord. Commun accord, c'est un grand classique du communiqué corporate qui signifie en langage humain « quelqu'un n'est plus le bienvenu, mais on va rester civilisé parce qu'on a quand même tous des avocats ». Et pour finir, Fontobal avec des entrées nettes d'argent quasiment triplées sur un an. Voilà ce qu'il fallait retenir de cette semaine. Oui, je sais, c'était long. Voyons maintenant ce qu'il faut attendre de la semaine à venir. 3 rendez-vous principaux, un seul gros dossier à suivre. Mardi, mercredi, 28 et 29 avril, FOMC Meeting. Powell donnera sa conférence de presse mercredi en fin de journée au quiche ou deviche. Le marché parie sur deviche à 90%. Je suis pas sûr qu'il soit aussi docile qu'espéré. C'est son dernier grand meeting comme patron de la Fed. Ça ne se gâche pas, mais ça ne se fête pas non plus. Jeudi 30 avril, probablement la BOJ meeting aussi. Ueda pourrait surprendre. Si oui, le yen explose à la hausse, le carry trade se dénoue et on a une journée en rouge partout. C'est mon scénario de risque numéro 1 pour la semaine. Et puis, c'est la semaine des méga-caps. Apple, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet. Toutes la même semaine parce que pourquoi se simplifier la vie? Après les 22 000 milliards de capitalisation cumulée des Magnificent Seven, la moindre déception fera mal. Côté politique, confirmation formelle de Warsh au Sénat, peut-être. Suite de l'accord qui n'est pas un accord avec l'Iran, les postes de Trump et le PCE qui sera publié jeudi. On aurait dû avoir les NFP, les chiffres de l'emploi, mais comme le 1er mai, eh ben ça bosse pas, on va pas gâcher la fête avec ça non plus, il faudra attendre. En conclusion, j'ai envie de dire, la semaine qui arrive, tout peut arriver. Encore une fois, la semaine qui vient de se terminer nous a confirmé ce qu'on commence à savoir dans les marchés de 2026. La vérité n'est plus un facteur déterminant, c'est le narratif qui est déterminant. Et le narratif actuel, c'est que tout va bien. Trump a un deal ou aura un deal. Musk aura une convergence un jour. Warsh aura le Sénat et les semi-conducteurs ne font que monter. Powell se prépare donc à son dernier tour de piste. Des mines flottent toujours dans le golfe persiquien, on ne sait pas où elles sont. Mais pendant que tout le monde applaudit le spectacle principal, une inflation silencieuse se réveille à Tokyo. Ma leçon de 30 ans, et cette semaine la confirme une fois de plus, c'est que les crises ne viennent jamais de là où on les attend. Elles viennent toujours de l'endroit que personne ne regarde. Et en ce moment, personne ne regarde la Banque du Japon. Personne ne regarde Powell, personne ne regarde les mines du détroit d'Ormuz. Vous savez ce que ça veut dire. On se retrouve donc lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live. Et là, je vous raconterai ce qui s'est passé ce week-end avec ou sans accord de paix, avec ou sans tweet surprise, avec ou sans champagne. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker la vidéo, de la commenter, de la partager à votre belle-mère et à votre banquier. Et moi, je vais essayer de ne pas penser à la BOJ jusqu'à lundi. Passez un excellent week-end et donc à lundi. Bye bye.
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.